Vous écoutez Radion, il est 21h passé de quelques secondes. Bonsoir à toutes et à tous, Yannick Petit au micro pour vous inviter à monter à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Dans la même perspective de l'émission que nous avons diffusée mercredi dernier, nous vous proposons aujourd'hui une table ronde réunissant deux auteurs de romans noirs et de thrillers. En effet, dans quelques minutes, vous allez entendre Sandrine Colette et Lorraine Schneider, tous deux invités aux rencontres littéraires des Polars du Chat, qui se sont tenues les 8 et 9 juillet derniers au château de la Verrerie, en Saône-et-Loire, au Creusot. Sandrine Colette d'abord. Sandrine Colette, dont le premier roman des Nœuds d'acier a reçu en 2013, entre autres, le Grand Prix de littérature policière. En 2016, c'est le prix Landerneau Polar qui lui est attribué pour son quatrième roman, et Sandrine Colette revient sur le devant de la scène littéraire cette année avec un cinquième roman intitulé Les larmes noires sur la terre, paru chez De Noël en février 2017, un roman noir qui met en scène, à travers le regard de six femmes, une société d'exclus survivant dans une casse automobile. Tout d'abord, nous allons, dans une poignée de secondes, entendre Lorraine Schneider. Lorraine Schneider est né en 1971, il a consacré la première partie de sa vie à sa famille et à sa carrière. Musicien, voyageur insatiable, curieux, maladif et amoureux des livres, il décide en 2014 de réaliser son rêve d'enfance et se lance dans l'écriture de romans. Il a publié L'héritage de Lizzie, un thriller dont il va être très largement question dans l'émission de ce soir. Et en 2016, il a fait paraître Le prix à payer. Tout de suite, découvrons L'héritage de Lizzie. Lorraine Schneider, c'était le 8 juillet dernier, au château de la Verrerie, au Creusot, en Saône-et-Loire.
Lizzie est une jeune journaliste qui à un moment donné, découvre que son demi-frère est un dealer de drogue. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est très très vite de rentrer dans la... Elle a à peine démarré sa vie, qu'on lui vole sa vie. Elle pensait... avoir une vie normale, je ne sais pas ce qu'on peut appeler la normalité, mais en tout cas d'être dans, voilà, de trouver peut-être l'âme sœur, de faire une carrière, et puis voilà. Et son demi-frère, on lui apprend qu'il est dealer de drogue et qu'il veut la faire enlever. Voilà, donc ça démarre extrêmement rapidement, et c'était le but d'attraper le lecteur relativement rapidement avec quelque chose de spectaculaire.
Alors effectivement, elle est d'origine champenoise, elle va voir ses parents en Champagne, et là débarque le raid, et effectivement, c'est la douche froide. Son demi-frère, puisqu'en fait c'est un garçon qui a été, je crois, adopté. Ses parents. Hein. Elle est née naturellement après, et c'est le début d'une histoire un peu terrible. Alors le roman s'ouvre sur Matt, qui s'appelle Matt Branson. Il est établi, alors en plus, vous nous transportez tantôt à Londres, tantôt aux États-Unis, c'est l'Ouest américain, c'est Las Vegas, une cité, un haut lieu du tourisme, peut-être pas de la débauche, mais en tout cas du jeu. Et à Las Vegas, donc, Matt Branson est un véritable baron de la drogue, un pouvoir gigantesque. Et Lizzie, pendant très longtemps, ne pensait que son demi-frère avait fait fortune dans les affaires.
Oui, elle l'avait idéalisé, elle pensait que son grand frère lui avait expliqué qu'il avait fait fortune aux États-Unis. Donc évidemment, on est peut-être dans le cliché de la réussite, etc. Et puis ce cliché, il s'effondre. Il s'effondre parce qu'elle découvre que, oui, alors après, dès le départ, elle est dans l'interrogation de comment ai-je fait pour idéaliser ce demi-frère, comment a-t-il fait pour me mentir. Bien sûr qu'il y a la compréhension de la situation dramatique, puisque Interpol la prévient qu'il veut la faire enlever, mais en même temps, elle ne peut pas enfuir ses sentiments qu'elle a construits durant toute son enfance en idéalisant ce grand frère. Donc c'est difficile d'accepter la vérité. Donc il y a le travail du deuil de ce grand frère idéal, et commence la confrontation à la réalité. Qui est-il vraiment ?
Alors, effectivement, donc vous nous faites rentrer dans une intrigue qui est une intrigue familiale, d'une part, et d'autre part, J'avais lu, notamment sur le site Les Polars du Chat, dans l'interview que vous aviez accordée, je suppose, à Patricia Félix, que vous étiez un passionné de thriller, que vous aimiez beaucoup la littérature américaine. C'était pour vous indispensable que l'action, une grande partie de l'action de ce roman, se situe aux États-Unis ?
Indispensable, non. C'est les voyages que j'ai pu faire aux États-Unis qui m'ont sans doute apporté un éclairage qui était plus adapté à un roman que je voulais. Bien sûr, c'est du thriller, mais c'est aussi ce qu'on pourrait presque appeler un roman d'aventure. C'est-à-dire qu'il se passe des choses ailleurs. Voilà. Et ailleurs, l'exotisme, c'est ailleurs. Donc transporter le lecteur ailleurs était pour moi une satisfaction de ne pas le laisser dans son quotidien. Voilà. Donc c'est de l'exotisme, c'est une recherche d'exotisme.
Alors effectivement, parce qu'il y a la scène au motel, on est vraiment dans le mode de vie américain, le maire de la ville, tout sourire, hein, fort en communication, qui effectivement ne veut pas que le prestige de sa vie, de sa ville, soit sali ou taché par des affaires de drogue. On sait que ça existe, mais surtout que ça n'éclate pas dans les médias. Alors exotisme, certes, mais alors on meurt. On assassine, on éventre, on tue avec bonheur. C'est une guerre de gang.
Avec un vrai plaisir, oui.
Avec un vrai plaisir. Alors justement, Lorraine Schneider, comment... Et c'est la question que je me pose, moi qui n'écris pas, mais quand je lis un Gilles Caillot, où effectivement lui aussi fait tuer pas mal de monde... Comment vous travaillez ces scènes ? Parce qu'il faut rester quand même dans le vraisemblable, me semble-t-il, mais il y a tout de même parfois une outrance, une violence, une sauvagerie de l'humain. Comment vous la pensez ? D'où vient-elle, cette sauvagerie ? C'est la réécriture de crimes déjà lus, inspirés par les faits divers du quotidien, dans les magazines ?
Ouais, c'est une bonne question. Entre ce que j'ai écrit dans ce livre-là, ou comme d'ailleurs dans le suivant, et ce que j'ai laissé paraître dans le livre, il y a encore un distinguo. C'est-à-dire que parfois je vais un peu trop loin et je m'auto-censure.
Vous freinez un peu.
Oui. Alors j'utilise ma famille, mes gosses, qui sont pas tout petits, hein, donc des enfants qui ont entre 18 et 25 ans. Et souvent, je leur dis, voilà, je prépare telle scène, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on entend des noms, c'est pas possible, tu vas trop loin, c'est horrible, bon, voilà. Ou parfois, c'est au contraire, oui, ça nous... Donc, j'essaie d'utiliser mes proches pour essayer de construire, pour trouver le bon degré. Alors, après, c'est une vraie sensibilité. On rencontre des lecteurs de thrillers qui sont tellement habitués à... qui trouvent ce bouquin-là d'une gentillesse absolue, et d'autres qui n'ont jamais lu de thriller, donc qui vont le trouver un peu brutal. Donc ça dépend beaucoup de ce qu'on a pu lire, de ce qu'on a pu déjà emmagasiner, un peu comme celui qui mange, tout dépend de comment ont été éduqués ses papilles, et il ne va pas mettre le degré, la perception au même niveau.
Voilà. Eh bien, extrait. Putain de merde, c'est dégueulasse, mais quelle est l'espèce d'enfoiré qui a pu faire un truc pareil ? Marc savait bien qu'il devait appeler immédiatement son supérieur, qui lui-même appellerait la police scientifique, mais il resta pétrifié devant la scène et chercha à comprendre. Il s'agissait très probablement de deux amants, sinon pourquoi auraient-ils été tous les deux nus comme des vers ? Ce n'était pas usuel. L'homme avait un corps plutôt athlétique, musclé, les bras ornés de nombreux tatouages, des cicatrices de blessures par balles. Peut-être un combattant, un soldat, ou un de ces sales types qui trempent dans des affaires de drogue. C'était bizarre, un corps sans tête. Une coupe de cheveux, un visage, permet souvent d'imager une profession, de se faire une idée de la personnalité. Là, rien. Intrigué, il ne put s'empêcher de scruter en détail le corps de la femme, visiblement jeune, les chairs fermes, des jambes fines avec une rose tatouée sur le mollet droit. Elle était couchée sur sa joue droite, mais une masse de cheveux noirs détrempés de sang collait sur l'autre joue, empêchant de voir son visage. Il utilisa le bout de son arme pour écarter légèrement les cheveux. Il ne bougea que de quelques millimètres pour comprendre avec effroi que cette fille avait subi le même traitement que Daisy Thornton. Les yeux lui avaient été prélevés. Vous pouvez applaudir, hein, c'est... Accusé Lorraine Schneider, qu'avez-vous à répondre devant une scène aussi sordide où vous énucléez les visages des femmes et tranchez les têtes?
La mort fait partie de la vie. Est-ce que c'est une réponse acceptable? Je ne sais pas. Non. Bon. Il va falloir que je creuse un peu. Je ne suis pas sûr d'ailleurs d'être le même auteur que... En tant qu'auteur, lorsqu'on écrit, je le trouve bien moins grave que ce que parfois ce que je ressens en tant que lecteur. Lorsque j'ai pu lire certains de mes amis auteurs, je suis effaré. Je ressens donc. Je pense qu'on ne perçoit pas la même chose en l'écrivant qu'en le lisant. Évidemment, notre objectif, c'est que le lecteur, lui, le perçoive. Mais cette phrase-là ou ce passage-là, quel qu'il soit, on l'a tous retravaillé en tant qu'auteur 2, 3, 4, 5, 6 fois. Donc on a aseptisé un peu la scène de crime et on se l'est approprié. Donc oui, pour moi, c'est pas trop grave si on lui a enlevé les yeux. Enfin, ça vous a posé un problème ?
Non. D'accord. Non. N'étant pas habitué effectivement à de telles horreurs, non, mais je suis pas choqué. Mais simplement, l'approche de la mort, des sévices sur un corps, voire un corps martyrisé, mutilé, ça m'a beaucoup fait penser à ces scènes terribles d'Aesh, enfin qui mettaient en scène. Là on est. Ah ben, attendez. On est d'accord, on n'est plus dans la fiction, on est dans la réalité, mais ça existe, ces mises en scène filmées. On n'y a pas tellement accès, parce qu'à mon avis, c'est verrouillé, mais on sait très bien...
La réalité dépasse toujours la fiction et tout ce qu'on peut écrire comme horreur. Mais, alors, est-ce que c'est de l'exorcisme? On essaye de se préparer, peut-être, de voir le pire dans une fiction et de se rassurer que nos vies vont bien et que finalement être vivant c'est se faire peur avec la mort et puis voilà, je me sens vivant. Donc l'être humain a toujours dans toutes dans toutes les civilisations mis en scène la mort. Donc c'est peut-être une manière moderne de mettre en scène cette mort pour essayer de ne pas en avoir peur ou de l'accepter. Mais je ne pense pas qu'il faille aller trop dans l'intellectualisation des choses. On est là pour divertir des lecteurs. La vie, c'est l'amour, c'est la mort, c'est la souffrance, c'est le plaisir, c'est la jouissance, c'est la douleur. Tout ça, c'est la vie. Donc oui, on met la mort en scène, mais pour moi, c'est un jeu que je manie quand même avec précaution. Il y a des choses, je m'interdis quand même certaines choses. C'est vrai que Gilles Caillot est un maître en la matière. Je ne n'irai pas jusqu'à ce niveau-là, même si je trouve ça passionnant qu'il aille chercher dans l'âme humaine cette noirceur. Je trouve ça extraordinaire. Mais je n'en serais sans doute pas capable.
Les polars du chat, presque comme si vous y étiez. C'était les 8 et 9 juillet dernier au Creusot, un salon unique en Bourgogne dédié aux thrillers, aux littératures policières et de science-fiction. Un jeune salon qui a réuni une trentaine d'auteurs venus des quatre coins de France dans un lieu prestigieux, le château de la Verrerie, longtemps propriété de la famille Schneider au Creusot. On marque, si vous voulez bien, une première petite pause musicale. On se retrouve d'ici quelques minutes. Je rappelle, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Radion.
If that's the way that I like it, and a cup of tea. That's the way they like it. Oh, keep on feeling better. Love me, please, and stay. Really doesn't matter. Wake me up today. Da 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 da. Da 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 da. The remedy never need. That's the way you like it. Oh, the scent of modesty. The charms that walks in your dreams. That's the way they like it. Oh, keep on feeling better. Love me, please, and stay. Really doesn't matter. Wake me up today.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Les 8 et 9 juillet derniers se tenaient les Polars du Chat, salon du livre organisé par Patricia Félix et consacré aux thrillers, aux polars et aux littératures de science-fiction. Ce salon se tenait au château de la Verrerie, au Creusot. Des tables rondes étaient organisées et regroupaient quelques-uns des 30 auteurs invités à cet événement littéraire autour du polar, un événement unique en Bourgogne. La table ronde que nous diffusons ce soir réunissait Sandrine Collette et Lorraine Schneider. Lorraine Schneider qui nous a présenté l'héritage de Lizzie et qui tout de suite évoque le prix à payer, le roman qu'il a fait paraître l'an dernier en 2016. Lorraine Schneider.
J'ai commencé à écrire il y a 3 ans, hein, donc c'est quelque chose qui était nouveau pour moi. Et j'ai passé de nombreuses années à m'occuper de ma famille et de mon travail. Voilà. Et l'écriture est venue comme une espèce d'évidence. J'ai toujours voulu écrire, mais voilà, la vie a fait que je me suis donné d'autres priorités. Et quand j'ai donc publié l'Héritage de Lizzie, j'ai été pris par une espèce d'aspiration et il a fallu, et j'ai eu une peur bleue en terminant le livre, que je n'étais capable d'écrire qu'un livre. Alors je me suis dit, mais il y a tellement d'auteurs qui n'arrivent à écrire qu'un livre, aussi fantastique soit-il, mais et là l'angoisse est venue et je me suis dit, il faut absolument je continue d'écrire tout de suite, ne pas perdre la main, comme le vélo, on laisse pas refroidir les muscles, on y va, on fonce, il faut absolument que j'en enchaîne un. Donc ça a donné Le prix à payer, qui est en fait la suite des aventures de Lizzie, j'ai pris d'autres, j'ai atteint d'autres, comment dire, je me suis amusé d'autres manières à travailler les personnages, donc avec une histoire qui se déroule à New York après le 11 septembre, mais qui aussi fait voyager le lecteur à travers le monde, donc les voyages sont toujours très très présents. Et voilà, donc c'était un deuxième livre qui était véritablement la suite de l'Héritage de Lizzie.
Et ces livres, bien évidemment, sont disponibles sur le stand de Lorraine Schneider, qui vous les dédicacera avec plaisir, et vous pouvez l'applaudir. Ah. Alors Sandrine Colette, Sandrine qui est née à Paris, qui vient en voisine finalement ici au Creusot quand on habite la Comelle, c'est 35 minutes de voiture pour venir jusqu'ici.
Oui, c'est à peu près ça. Même l'impression d'arriver à la ville.
Alors Sandrine qui a beaucoup de fans, oui. Parce que j'entends parler de vous, Sandrine Colette, et on peut le concevoir. Donc premier livre en 2013, Des nœuds d'acier, qui remporte le Grand Prix de littérature policière. 2014, Un vent de cendre. En janvier 2015, Six fourmis blanches. 2016, Il reste la poussière. Et cette année 2017, Les larmes noires sur la terre. Alors Sandrine, bac littéraire, master en philosophie, doctorat en sciences politiques, et puis maintenant... Elle est tranquille, elle est heureuse, à la Comelle, elle s'occupe de ses chevaux qu'elle ne vend pas, c'est son plaisir à elle, et surtout écrire, et s'il peut pleuvoir en plus, vous m'aviez dit que vous adorez écrire quand il pleut, à l'abri, bien sûr, à l'abri. Les larmes noires sur la terre, c'est un roman noir, moi je le classe comme un roman noir, Sandrine, vous en êtes d'accord ?
Oui, je suis assez d'accord, assez contente d'ailleurs que vous le disiez.
Qui va un petit peu gratter le terreau de la violence, de la misère, je disais misère affective, misère sociale, puisque c'est le parcours d'une jeune femme de 26 ans, mal mariée, un mari alcoolique, elle part, il ne la retient pas vraiment, elle part avec un enfant, un petit bébé, et puis cette misère fait qu'elle se retrouve, par le biais des services sociaux, dans un nouvel environnement qu'on lui impose, elle n'a pas le choix. Et je vous laisse peut-être en parler un peu, Sandrine, parce que je ne voudrais pas trop en dire non plus sur l'environnement. Bon, la quatrième de couverture dit de quoi il s'agit quand même, mais je vous laisse la parole,
Sandrine. Oui, et puis on ne dira pas tout quand on aura expliqué ça. Elle se retrouve dans un nouveau type de centre d'accueil. Et là, en ça, le livre simplement est un pas devant la réalité, mais je pense un petit pas seulement, puisqu'on reloge ces exclus sociaux. Non pas dans des HLM par exemple ou des logements d'urgence, mais dans des villes qui ont été bâties à partir de carcasses de voitures. Donc c'est une forme de recyclage, on recycle des humains dans des voitures elles-mêmes recyclées, c'est-à-dire qu'elles sont sur cale, elles n'ont plus de roues. Elles ont plus de couleurs et on arrive à un poste d'accueil où quelqu'un vous attribue une voiture et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus qu'à prendre votre baluchon et à aller vous installer dans l'un de ces multiples petits quartiers qui composent ces villes casses. Et donc cette jeune femme qui s'appelle Mo arrive là-bas avec son tout petit bébé, oui, effectivement. Et peut-être parce qu'elle est vraiment dans un engrenage comme on en connaît tous, je pense. C'est-à-dire, c'est une jeune femme pour qui il y a eu un grain de sable, qui en a entraîné un autre, puis un autre, puis un autre. Et je pense qu'on connaît tous des histoires comme ça, de gens qui ont éventuellement divorcé, qui ont éventuellement perdu leur travail, qui ont éventuellement, etc., et qui se retrouvent à la rue, et qui se retrouvent, pas de cette manière-là, mais à vivre dans des voitures. Enfin, on en entend parler...
Les travailleurs pauvres qui vivent dans leur voiture, par
exemple.
Oui,
et que vous côtoyez peut-être sans le savoir, puisque c'est assez souvent très, très invisible. C'est souvent des femmes. Et moi, je me souviens d'une libraire qui avait lu ce livre-là à sa sortie et qui m'a dit qu'elle-même avait eu une collègue quand elle était libraire en grande surface, qui était chaque jour souriante, pomponnée, absolument... irréprochable, et qu'elle l'avait vue un matin sortir de sa voiture où elle vivait seule avec ses deux petites filles. Et voilà, c'est montré à quel point, en fait, quand je disais que le livre est un tout petit pas devant la réalité, je pense que c'est tout petit, effectivement.
Alors, Moé, il faut dire comment, Mo, qui est jeune, hein, elle n'a pas 30 ans, elle a 26 ans. Elle a des origines, elle vient d'une île exotique,
Tahiti.
Là, ouais, elle vient, Tahiti, effectivement. Et elle se retrouve dans cette... Alors j'ai relevé les occurrences, cette casse, cet ensemble de voitures qui constituent des quartiers, c'est tantôt. C'est la ville poubelle, ce n'est pas le monde normal ici, il n'y a rien de poétique ici, cette ville aux lois indéfinies, et puis il n'y a pas de cimetière non plus dans cette ville. Hein. Mais... il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que Mo rencontre d'autres femmes. Et ce qui est magnifique, c'est que Sandrine révèle le parcours et explique pour quelles raisons chacune de ces femmes se retrouve dans une voiture avec un matricule, parce qu'elles sont tout de même dans un camp, sorte de camp où on les maintient à l'écart d'une société où, qui vit à peu près confortablement, qu'on suppose lointaine, qui s'appelle Paris, puisqu'on est quand même dans un contexte français. On est d'accord.
Oui, oui.
Et notre mot, par exemple, elle a le matricule 2167. Et puis, il y a Poule, Marité, Nini Potchien. Il y a donc... Nini Potchien, c'est la blonde qui veut vivre quand même sa féminité.
Qui veut continuer à vivre. Malgré tout, oui, effectivement.
Il y a une vieille femme arabe, assez fascinante, qui a connu la prison, je ne dis pas pourquoi, qui s'appelle Jaja.
Oui, elle n'est pas vieille.
Elle n'est pas vieille. C'est pas non, la... c'est la, je confonds avec la vieille afghane. Oui. Alors l'afghane, c'est Ada. Et ces femmes, bon, Ada, elle vit dans une caravane, ce qui est un peu plus luxueux qu'une voiture, parce qu'il faut imaginer quand même que Mo se retrouve dans une 206 et que l'hiver, parce qu'elle arrive à l'automne, elles lui disent « Attends, il faut que tu fasses attention, elle a le bébé ». L'hiver dans une voiture où il n'y a pas de chauffage. Donc, c'est un univers fermé avec des gardiens qui passent autour du camp, qui surveillent. Les femmes travaillent dans des potagers, dans des jardins voisins du camp. Et c'est une sorte d'univers un petit peu concentrationnaire. Il y a quelque chose, avec le matricule, il y a quelque chose de l'ordre du camp de travail, comme il y en a, comme il y en a eu dans l'histoire et comme il y en a encore aujourd'hui.
C'est peut-être plus largement, c'est une institution totalitaire, et d'utiliser cette expression-là, ça me permet de le dire que ça relève du camp de travail, ça relève de la prison, ça relève du couvent, ça relève d'un camp militaire, enfin c'est un peu tout ça. C'est un endroit où de toute façon vous n'avez plus de séparation entre vos espaces de vie privée et de vie publique, parce que tout le monde est toujours ensemble. En fait, c'est une sorte de grand bidonville. Dont on n'a pas le droit de sortir, ou à quel prix, c'est-à-dire qu'il faudra verser une rente à l'État, une somme à l'État pour sortir de cet endroit-là, pour assurer qu'on soit capable de se prendre en charge et qu'on ne retourne pas dans la rue dès qu'on est dehors, dès qu'on est revenu au monde. Donc autant dire qu'il y a très très peu de gens qui arrivent à en sortir, sauf au prix de trafic multiple, puisque forcément ce sont des environnements comme des cours de miracle qui vont générer énormément de trafic.
Sandrine Collette, il me semble que le thème de l'enfermement vous plaît beaucoup. Moi, le premier livre de vous que j'ai lu, c'est votre premier roman, c'est Théo, ce jeune homme qui se retrouve dans une cave martyrisé par deux vieillards débiles dans le Morvan. Enfin, c'est pas écrit que c'est le Morvan, mais ça pourrait être ailleurs, les Vosges. Il y a tout de même chez vous un attachement très fort à ce thème de la privation de liberté, de l'enfermement.
Oui, c'est gentil de ne pas dire un toc ou une phobie. Je suis tout à fait d'accord. Il y a ça, et en même temps, ça fait partie des choses dont vous vous rendez compte une fois que vous l'avez écrit. C'est-à-dire, sur le coup, vous avez l'impression de faire des livres très différents, avec des personnages qui ne reviennent pas d'une fois sur l'autre, avec des environnements qui sont différents, et évidemment des fils d'histoire qui sont différents. Et puis à la fin, il y a des gens comme vous qui disent « Ah, mais il n'y aurait pas encore de l'enfermement là-dedans, ça ne serait pas un huis clos, vous n'avez pas une sorte de tropisme là-dessus. » Et là, vous vous dites « Nom de nom, il faut que je me fasse psychanalyser. » Et je crois que ce qui me plaît avant tout, c'est le paradoxe entre l'impression qu'on est dans un grand espace et la réalité qui fait qu'à l'intérieur de cet espace-là, on est dans un microcosme, on est dans une prison, on est dans quelque chose de tout petit qui vous écrase et qui vous oppresse. Donc les grands espaces sur les bouquins précédents, effectivement, c'est la campagne du Morvan, la montagne, c'est la steppe de Patagonie. Et là, bien que ça soit un environnement plus urbain que ce que j'ai l'habitude de faire, parce que c'est une sorte de ville de métal rouillé, on est dans la vallée d'un barrage, et ça s'explique parce que ça fait des barrières naturelles infranchissables, pour que les gens ne puissent pas s'enfuir, sauf sur un côté qui, lui, est bardé de grilles. Et malgré tout, dans cette immense vallée de barrages, ben, vous êtes dans cette ville dont personne ne sort.
Sandrine Collette, à l'instant, dans Wagon Livre sur Radion, c'était à l'occasion des rencontres littéraires des Polars du Chat, le 8 juillet dernier, au château de la Verrerie au Creusot. Et quelle étonnante destinée que celle du château de la Verrerie au Creusot. En effet, à sa construction, c'était une usine qui abritait la manufacture royale des cristaux de la reine Marie-Antoinette. Et dans la cour du château, il y a deux constructions coniques d'anciennes halles qui accueillaient les fours de fusion du verre et qui témoignent encore de cette activité. À partir de 1837, la manufacture devint la résidence des Schneider, maîtres de forge, qui transformèrent progressivement l'ensemble des bâtiments. Alors de style très classique, hein, la cour d'honneur du château est encadrée, comme je vous l'ai dit, par deux anciens fours de forme conique, les anciens fours de la cristallerie, et dans le corps central du château se trouve aujourd'hui le musée de l'homme et de l'industrie, où l'on peut découvrir les collections de l'écomusée Creusot-Monceau, qui retrace l'histoire de la ville du Creusot, de son industrie verrière puis métallurgique et de la dynastie des Schneider. Très bonne soirée à toutes et à tous. C'est Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. On retrouve bien sûr la table ronde que nous vous proposons ce soir d'ici quelques minutes, mais on marque un nouvel intermède musical. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
try.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Les 8 et 9 juillet derniers se tenaient les rencontres littéraires des Polars du Chat, consacrées au polar, bien sûr, au thriller, mais aussi à la littérature de science-fiction. Une manifestation littéraire organisée par Patricia Félix et qui se tenait au château de la Verrerie au Creusot. Des tables rondes étaient organisées et regroupaient quelques-uns des 30 auteurs invités à cet événement autour du polar, un salon actuellement unique en Bourgogne. Et la table ronde que nous diffusons ce soir réunissait Lauren Schneider, auteur de L'héritage de Lizzie, et Sandrine Collette pour son dernier roman, un roman noir, Les larmes noires sur la terre, paru chez De Noël en février 2017. Sandrine Collette.
Il faut prendre en compte le fait que les autres sont là depuis des années. Et je pense que, enfin, je ne sais pas, si on essaye de se projeter dans un environnement comme ça, ce n'est pas évident, mais ou quelque chose qui y ressemble, je crois que vous arrivez avec la volonté et la conviction que vous allez en sortir. Et puis je crois que de mois en mois et d'année en année, quand vous voyez la façon dont ça se passe, juste un exemple, par exemple, les gens travaillent là-bas et sont payés 80 centimes de l'heure. 80 centimes de l'heure, c'est en gros ce que sont payés en réalité les prisonniers en France, dans les prisons quand ils travaillent dans des ateliers. Donc c'est pas incohérent non plus, hein. Enfin, c'est pas tout à fait incohérent. Et voilà, quand on voit ça et qu'on voit qu'en face de ça, il faut acheter un minimum à manger parce que les portions qu'on vous donne de droit ne permettent pas de vivre correctement, et ben la volonté et la conviction s'étiolent. C'est de l'épuisement, c'est au lait.
Une phrase et une expression qui est importante parce que, à mon avis, elle reflète bien l'attitude des autres femmes, pas celle de Moé, qui est plutôt combative. Mo soigne ses maux comme un chat lèche ses plaies. Patience et lenteur dans ses gestes et dans sa tête. Une infinie résignation aussi. Consentir au mal, non, elle ne s'habitue pas. Consentir au mal, même les enfants sont dans ce camp. Il est dit d'eux qu'ils sont plus proches des bêtes que des hommes. Et vous écrivez, Sandrine, ces mauvaisetés dans des corps d'enfants, je m'en méfie plus encore que de leurs parents. Enfin, c'est une des copines de Mo qui dit, méfie-toi même des enfants. Donc on a une casse, un village où effectivement règne la violence, la laideur morale et l'impossibilité d'en sortir, écrasé par cette misère, l'enfermement et l'exploitation aussi. Mais ce qui est beau, pardonnez-moi Sandrine, c'est l'histoire, le parcours de toutes ces femmes qui apportent la touche un peu joyeuse, bon, même si elles ont des parcours un peu scabreux et pas toujours remarquables, mais c'est de la violence, c'est aussi les hommes, c'est des hommes qui les ont conduits là, des mâles souvent.
Oui, en partie.
Il y a un peu de ça.
Oui, en partie. Et quand vous dites que ce sont forcément des histoires ou des trajectoires de vie scabreuses, je pense qu'on peut aussi éclairer ça en imaginant que je me suis, pour chaque histoire de ces femmes, inspirée d'histoires de femmes que je connaissais, que je connais ou que je connaissais, certaines sont mortes. Et je crois que ça donne une dimension supplémentaire au livre d'imaginer que on dit que c'est noir, on dit que c'est très triste, on dit que c'est très oppressant. Et moi, je vous rajoute une seule chose. En plus, c'est vrai. Ce sont des histoires vraies. Alors, il y a des arrangements de la fiction, bien évidemment, parce que comme c'est un pas devant nous, chronologiquement, j'ai eu des arrangements à faire. J'ai aussi agrémenté les histoires de vie pour qu'elles ne soient pas brutes, pas telles quelles. Mais voilà, il y a cette dimension-là. Je pense que c'est peut-être la force du livre, c'est d'imaginer du côté du lecteur que c'est possible. De mon côté, c'est de savoir que c'est vrai. Et la deuxième chose, je crois que c'est ce que vous avez dit, c'est que même à l'intérieur de cet univers qui est résolument sombre, résolument fermé, résolument foutu, hein, quand vous avez cette petite poignée de femmes qui décident de s'épauler, de se mettre ensemble et de faire face au reste de la ville et de la violence, là vous créez une minuscule étincelle et une minuscule chance de vous en sortir d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire ce que vous dites qu'il n'est pas possible, de s'élever un peu avant même d'imaginer sortir.
Et Balzac disait qu'il n'y a de vie que dans les marges, et elles vivent vraiment à la marge, et il y a vraiment une vie, une solidarité, une compréhension, une complicité dans le malheur entre ces femmes parias. Et c'est ça qui est très fort, je trouve. C'est le point le plus, pour moi, c'est ce qui m'a le plus touché.
Oui, et ben d'ailleurs, c'est un roman sur la solidarité, sur l'amitié, avant même d'être un roman sur la misère. Le point central de ce livre-là est vraiment celui-ci. Moi, j'avais été assez frappée il y a des années, quand vous dites qu'il y a cette solidarité dans le malheur. En fait, dans le malheur, soit tout le monde la joue perso, et vous êtes dans la confrontation, vous êtes dans la guerre permanente, c'est une solution. Soit vous vous épaulez et ça produit quelque chose de tout à fait différent. Et je connaissais des gens, un couple en l'occurrence, qui était dans une situation financière extrêmement difficile, quand je dis vraiment très très difficile, et pendant des années, ils se sont épaulés. Quand il y en a un qui craquait, c'était l'autre qui prenait le relais. Ils se remontaient leur morale l'un l'autre. Ils arrivaient à trouver des petits boulots de temps en temps, etc. Et puis il y a un moment, au bout de 5 ou 6 ans, où tout s'est amélioré. Ils ont retrouvé du travail chacun. Et donc voilà, les factures, c'était plus un problème. Ils se sont séparés. Et quand vous regardez ça, vous vous dites, être passé par tout ça pour en arriver là, mais quel malheur! Et en même temps, et ben voilà, je crois que c'était dans le malheur qu'il y avait cette espèce de fusion, vraiment de fusion, parce que les deux voulaient s'en sortir pour l'autre, et que vous êtes, ça c'est un thème qui m'est cher aussi, dans la survie. Et donc il y a ce seul objectif-là. Une fois que la survie est assurée, c'est là que commencent les choix. Et les choix, c'est pas toujours la même chose pour les uns pour les autres. Et puis les choix, c'est là que vous commencez à avoir du superflu, de l'artificiel, et des choses qui vous séparent. Alors que quand il s'agit de trouver à manger pour le lendemain ou la semaine d'après, ou de régler une facture EDF, on y va tous les deux ensemble.
Et puis il y a cet enfant de mots qui a la chance d'avoir toutes ces femmes qui s'en occupent toutes, quoi. Enfin, c'est très joli. En novembre 2014, Lorraine, je vais vous demander de reprendre le micro. En novembre 2014, j'ai réécouté l'entretien que Sandrine et moi avions enregistré en public à Étang-sur-Arroux, et Sandrine Colette me disait « On s'amuse en écrivant un livre. Est-ce que vous vous êtes amusé ?» Enfin, vous avez du plaisir sans doute, mais est-ce que vous vous amusez à écrire ces scènes, quelles qu'elles soient, scènes d'action, dans l'héritage de scènes d'action, scènes de meurtre
Oui, du plaisir, oui.
De l'amusement,
mais
un peu
de l'amusement, on peut, bien entendu. Il y a un moment donné, il y a une sorte de détachement qui fait que... parfois, les proches nous disent qu'on est un petit peu... On travaille un peu du bocal quand même. Mais voilà, parce que je peux être monomaniaque pendant 3 soirs d'affilée, de me dire comment est-ce que cette scène va finalement se finir. Mais il n'y a pas que du plaisir, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas longtemps, pour un livre que je suis en train d'écrire, je me suis attaqué à une scène de viol qui pour moi était extrêmement douloureuse. Donc j'ai essayé de la travailler, d'abord avec une approche peut-être un peu trop sage. Après, j'ai cherché un peu mes limites, je suis sorti de là, j'étais épuisé. Mais on apprend aussi sur soi-même. C'est du plaisir, mais on cherche d'abord des émotions, parce que les émotions du lecteur ne seront réelles que si elles le sont déjà pour nous. Nous sommes nos premiers lecteurs. Donc si moi je ressens quelque chose de fort, de la tristesse, de la joie, de la douleur, de l'horreur, on peut espérer que le lecteur retrouve ces sentiments-là.
Et Georges Simenon, Lui, je crois qu'il passait 9 à 11 jours pour écrire un roman, dans le meilleur des cas, et il disait qu'il en sortait exténué parce que c'était un effort gigantesque. Sandrine, vous vous êtes amusée en écrivant Les larmes noires sur la terre? Un peu moins, peut-être?
Alors peut-être que je pourrais nuancer, parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis entre 2014 et aujourd'hui. Donc c'est ce que dit Lorraine ou Laurent est plus juste. C'est qu'on prend du plaisir à écrire. Quelle que soit pour ma part, quelle que soit la scène, puisque, encore une fois, je suis d'accord avec toi, il y a une distance qui se fait. Cette distance qui se fait avant tout vient de ce qu'on met des mois ou des années. Ça dépend à écrire un livre, et que donc on connaît l'histoire par cœur, et que donc pour nous il n'y a plus de surprise. Quand le lecteur le découvre en quelques heures ou en quelques jours, je comprends qu'ils prennent parfois vraiment, comme certains viennent me dire, une baffe. Mais pour moi qui l'ai écrit, et qui ai mis du temps, qui ai, vous détaillez chaque scène, chaque page, chaque transition, etc., paf. Je me souviens, moi, systématiquement, le donner à l'éditeur en disant « Je crois que c'est mièvre. » Bon. Et l'éditeur me rappelle une semaine après en me disant « C'est absolument horrible, je ne sais pas où tu as cru que c'était mièvre. » Mais c'est pour dire que la distance qu'on prend fait qu'en fait, on n'a plus la distance suffisante pour juger de la noirceur du livre ou du côté... violent ou pas, amusant ou pas, etc. Bon, je sais juste qu'il n'y a pas beaucoup d'humour dans mes livres.
Enfin, la littérature noire existe parce que l'horreur existe aussi. L'héritage de Lizzie, c'est le roman de Lorraine Schneider, donc, que vous pouvez retrouver à son stand. Et puis, Les larmes noires sur la terre de Sandrine Collette. Merci, vous pouvez les applaudir.
Quel plaisir d'avoir animé cette table ronde des Polars du Chat qui réunissait Lorraine Schneider et Sandrine Collette. C'était donc le 8 juillet dernier au château de la Verrerie au Creusot. Je voudrais remercier bien sûr les auteurs et puis remercier et saluer Patricia Félix, l'organisatrice de ces rencontres littéraires, la remercier de sa confiance et de sa formidable énergie. Je remercie aussi tous les auteurs rencontrés sur place avec lesquels on peut discuter dans une ambiance vraiment chaleureuse et conviviale. En tout cas, les Polars du Chat, rendez-vous l'année prochaine. Généralement, c'est le premier week-end ou le deuxième week-end de juillet au Creusot. On vous tiendra bien sûr informés, mais d'ici là, il y a encore un petit peu de temps. Un peu de temps, en tout cas pour nous, pour marquer une dernière pause musicale, et on se retrouve juste après pour vous communiquer le programme de Wagon Livre de la semaine prochaine, mercredi 13 septembre.
Let winter break. Let it burn till I see you again. I will be here with you, just like I told you I would. I'd love to always love you, but I'm scared of loneliness when I'm alone with you. I know it's hard, only you and I. Is it all for me? Because I know it's all. Same for you. Say, my darling, I'll be rooting for you. Say, my darling, I'll be rooting for you. And where did she go? Truth left us long ago, and I need her. I should let it go, but all that is left is my perspective, broken and so left behind again. I know it's hard. Only you and I. Is it all for me? Because I know it's all for you. And I guess it is hell, and you for you. Then my darling, I'll be rooting for you.
Je vous rappelle que l'émission que vous avez pu entendre ce soir, notamment la table ronde réunissant Sandrine Collette et Lorraine Schneider, sera d'ici quelques heures disponible à l'écoute sur le site d'archives de l'émission Wagon Livre, www.yannickpetit.fr. Vous y retrouverez également les références des ouvrages, des romans dont il a été question ce soir. Mercredi prochain, 13 septembre, toujours à 21h sur votre radio locale, sur Radion, nous vous proposerons une autre table ronde enregistrée à l'occasion des Polars du Chat au Creusot. Ce sera d'ailleurs la dernière table ronde qui réunira Sandrine Destombes pour son roman « Ils étaient cinq » et Gérard Coquet pour son thriller « Connemara Black ». C'est donc mercredi prochain, 13 septembre. À bord de Wagon Livre sur Radion, bien sûr, Radion 90.5 dans le département de Lyon, ou alors par internet aux quatre coins de la Bourgogne et de France sur le www.radion.fr. N'oubliez pas aussi autre grande manifestation littéraire, cette fois-ci c'est en Côte d'Or, c'est entre Dijon et Beaune, ça se passe au château du Clos de Vougeot, c'est Livre en Vigne, 10e édition, 10e anniversaire d'un événement littéraire haut en couleur, première fête du livre au cœur du vignoble bourguignon, un événement initié donc par Evelyne Philippe et qui marque cette année donc son 10e anniversaire avec comme président du salon le philosophe Luc Ferry. Là encore, si vous voulez découvrir l'intégralité des auteurs présents à Livre en Vigne les 23 et 24 septembre prochains, notez bien dans votre agenda, 23-24 septembre prochain, vous allez sur internet découvrir l'ensemble des auteurs invités sur le www.livreenvigne.com. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous donc mercredi prochain pour un nouveau numéro de Wagon Livre. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la semaine prochaine.